Radio Kapi.
Les informations, je suis Moussa Oupondé. Une lueur d'espoir pour les victimes des massacres de février à Djougou en Ituri. Une mission conjointe de la justice militaire, de l'ONU et des médecins légistes ouvre une enquête sur les massacres des civils à Fataki. Les activistes et notables saluent cette initiative qui vise à documenter les crimes commis à Djaïba et à RR et à enfin traduire les auteurs en justice. Une mutuelle de santé pour les enseignants du Congo central, une avancée majeure pour améliorer leurs conditions de vie. Cette structure lancée hier à Matadi vise à leur offrir une prise en charge médicale de qualité et à revaloriser la profession, un objectif partagé par le ministère de l'Éducation. L'invité du journal ce matin est Gracias Kibanja, militante des droits des femmes et activiste environnementale. Elle nous parlera du travail de son organisation au Nord Kivu, où elle a réussi à mobiliser des femmes pour faire face à la crise climatique tout en renforçant leur autonomie malgré un contexte sécuritaire difficile. Bonjour à tous. D'abord, cette nouvelle. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu officiellement des mains du secrétaire général de la Chambre basse du Parlement les copies des pétitions qui visent 5 membres du bureau, y compris lui-même. Selon Vital Kamerhe, cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par la loi, précisant que le règlement intérieur sera respecté pour l'examen de cette démarche parlementaire. Par conséquent, le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbaï, non concerné par les pétitions, convoque les députés ce mercredi pour une plénière. À l'ordre du jour, la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau, précise son communiqué. Rendons-nous à présent en Ituri, où des activistes de droits humains et des notables du territoire de Djougou saluent l'ouverture hier mardi des enquêtes sur des massacres des civils par les groupes armés dans la région de Fataki, dans le territoire de Djougou. Ces acteurs font allusion à la mission qu'effectue actuellement dans cette région la justice militaire, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et des médecins légistes. Selon l'auditeur supérieur, l'objectif est de réunir des éléments sur des crimes graves commis à Djaïba et à RR afin de poursuivre les auteurs. Le point avec Martial Kizabiamungu.
Conduite par l'avocat général Lepré, la cour militaire de l'Ituri, cette mission mixte enquête sur les massacres des civils dans les localités de Ahar et Djaïba entre le 8 et 12 février 2025 dans les territoires de Djougou. La mission est composée notamment des experts du bureau droit de l'homme, Monisco Bounia, des médecins légistes de la police nationale congolaise, des secouristes de la Croix-Rouge ainsi que des agents de l'ONG Avocats Sans Frontières ASF. Selon l'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri, les enquêteurs ont pour mission de procéder au déterrement des corps des victimes dans ces deux entités devant les autorités coutumières et des témoins. C'est pour déterminer les circonstances de ces drames qui avaient provoqué à début d'année une vive émotion à Ituri. Le colonel Joseph Makelele déplore cependant les menaces persistantes de miliciens de la CRP de Thomas Lubanga qui pourraient entraver les travaux des enquêteurs. Des activistes du droit civil encouragent la justice militaire à poursuivre ces enquêtes dans d'autres entités afin que les auteurs de ces crimes soient punis. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
L'association Agir pour le patriotisme, les droits de l'homme et la justice, APDHJ en sigle, appelle les ministres de la justice et des droits humains à mettre en œuvre plusieurs mesures prioritaires restées en suspens. Parmi ces mesures, la formation et l'entrée en fonction de la deuxième vague de 2500 nouveaux magistrats, l'adoption d'une nouvelle loi sur le régime pénitentiaire, ainsi que l'approbation par le Parlement du projet de loi sur le barreau. Le président de l'APDHJ, Maître Venance Kalinga, évoque d'autres priorités au micro de Jeff Ngoy.
L'APDHJ recommande vivement d'accorder la priorité aux mesures concrètes ci-après. Au ministre de la Justice, de renforcer la justice de proximité en facilitant la construction de tribunaux de paix dans tous les territoires de la République et surtout dans les circonscriptions administratives, de faciliter en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature la formation, l'entrée en fonction et le déploiement de la deuxième vague de 2340 nouveaux magistrats nommés récemment par le président de la République. Au ministre des Droits humains, d'appuyer en collaboration avec le ministre de la Justice, la politique nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo et veiller à l'adoption par le Parlement des projets de loi validés par le gouvernement. Le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13 du 11 avril 2013 portant organisation, compétences et fonctionnement de juridiction de l'ordre judiciaire qui confère aux chambres réunies de la Cour de cassation la possibilité de connaître des crimes graves commis par les justiciables de cette juridiction.
Bonne nouvelle pour les enseignants du Congo central et leurs familles. Ils pourront désormais bénéficier des soins de santé de qualité dans des structures sanitaires dédiées. Cette avancée est rendue possible grâce à l'implantation hier mardi à Matadi de la mutuelle de santé des enseignants du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Une initiative qui vise à révaloriser la fonction enseignante à travers une prise en charge médicale adéquate. Le lancement officiel a été effectué par le ministre de l'Éducation du Congo central en présence de Marie-Faustine Beloko, directrice de cette structure. Vous le savez, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola sévit à Boulapé et dans le territoire de Mweka, province du Kasaï. Pour freiner la propagation de cette maladie virale, le ministère de la Santé a lancé dimanche dernier une campagne de vaccination ciblant prioritairement le personnel soignant. À ce jour, 48 infirmiers sur 85 ont déjà été vaccinés, alors que sur place, la situation épidémiologique fait état de 16 décès. Face à cette situation, le président provincial de la Fédération nationale des enseignants du Congo, FENECO, UNTC Kasaï, Félicien Lobomamba appelle les enseignants, les parents et les élèves à se faire vacciner pour limiter la propagation du virus et sauver l'année scolaire en cours. Cette déclaration a été faite lundi lors d'une rencontre au cabinet de travail du Provet de Kasaï de Mweka. Il s'exprime au micro de Sarah Sumbela.
Tous les enseignants ainsi que les élèves sont très bien gardés à la maison, juste avec objectif de garder toutes les mesures des barrières, juste pour que les gens ne puissent pas être contaminés par cette maladie ou juste pour qu'il n'y ait pas une propagation de la maladie d'épidémie à virus qui est déjà chez nous au Kasaï. Un message vibrant aux enseignants, élèves et parents est tel que tous les professionnels de la CRE soit dans leur domicile. Donc nous appelons tout le monde à aller là où la vaccination sera préparée en vue que tout le monde puisse bénéficier de cette vaccination.
Restons dans la région et toujours au sujet de l'épidémie d'Ebola. Le chef de groupement Bansweba, une entité administrative du territoire de Mweka où se trouve la zone de santé de Boulapé, touchée par cette flambée de la fièvre hémorragique, tire la sonnette d'alarme. Il appelle le gouvernement à mobiliser davantage des moyens pour faire face à cette crise sanitaire dans une région où les infrastructures de santé sont vieillissantes. Le chef Bidiaka Pobé Sylvain a été joint au téléphone par Freddy Bikumbi.
Nous faisons l'effort de ramener les gens qui avaient contacté les corps, les cadavres de la maladie Ebola, les amener au centre de traitement. Mais nous sommes en train de constater que les vaccins ne sont pas en grande quantité. Je profite de cette occasion pour faire un message aux autorités de nous assister avec tous les moyens. Notre hôpital ici, c'est un ancien hôpital de longtemps. Depuis 1924, l'hôpital ne répond pas aux conditions sanitaires comme il fallait. Cependant que cet hôpital accueillit beaucoup de malades. Donc, il n'y a pas de conditions sanitaires, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Que le gouvernement nous assiste pour arrêter cette maladie avec des médicaments, c'est très important.
Une nouvelle ère de coopération s'ouvre entre Kinshasa et Ankara. Le vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense nationale et l'ambassadeur turc accrédité en RDC ont signé hier mardi un accord dans les domaines militaires et industriels à Kinshasa. Guy Kabombo Modianvita et Murat Ulku ont paraphé ces documents en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général Jules Banza Mouilamboué. Plus de détails avec Blaise Dungala Mayanda.
En marge de ces échanges, le diplomate turc a exprimé la satisfaction de son gouvernement du début de la mise en œuvre de ses accords de coopération avec la KEDI, une forte délégation de l'industrie de défense de son pays. Les deux parties ont discuté de l'accréditation dans les tout prochains jours de l'attaché de défense près de l'ambassade de Turquie en RDC. À travers ces accords, les gouvernements congolais et turcs ont réaffirmé leur pleine disponibilité à renforcer les liens bilatéraux dans l'intérêt de leurs États et projettent de faire leur évaluation dans les jours à venir. Pour les patrons de la défense congolaise, la présence de l'ambassadeur turc sur le sol congolais marque l'excellence de la coopération militaire et industrielle entre Kinshasa et Ankara. Le VPM de la Défense nationale a également exprimé la volonté du gouvernement souminois de développer une industrie de défense autonome inspirée du modèle turc à travers une coopération militaire et industrielle exemplaire. Au mois de juillet dernier, Guy Kabombo Modianvita était en mission officielle en République de Turquie où il a pris part au 17e Salon international de l'industrie de défense IDEF 2025.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, les habitants de la localité de Kisegouro, dont le groupement Binza territoire de Rutshuru attire l'attention sur les cas de disparition de personnes qui deviennent inquiétants. Le dernier en date est celui de deux jeunes gens, membres d'une même famille, qui manquent à l'appel depuis plus d'une semaine aujourd'hui. Des détails avec vous, Sarah Sumbela.
Mesh Sedek et Patrick ne sont toujours pas revenus de champ où ils s'étaient rendus il y a environ une semaine. Toutes les recherches entreprises dans les plantations du bassin agricole de Boussessa et dans les localités des environs n'ont laissé entrevoir aucune trace d'eux. Pendant ces temps, d'autres concluent déjà à un enlèvement alors qu'aucune revendication n'a jusque-là été enregistrée. D'autres désespèrent et sont déjà en deuil. Ces derniers basent leurs convictions sur les témoignages de quelques autres personnes qui affirment avoir observé à distance ce jour-là l'enlèvement de ces deux agriculteurs. Cette même source attribue cet enlèvement aux éléments de la rébellion du M23. Toutefois, cette thèse ne réunit pas l'unanimité car certains reconnaissent que les groupes locaux d'autodéfense opèrent de temps à autre des incursions dans la région. La disparition de ces deux agriculteurs plonge les habitants de Kisegouro dans un grand émoi. Ils se remémorent le cas des disparitions quasi similaires survenues entre le mois de juillet et d'août dernier, au plus fort des affrontements dont le groupement de Binza soutiennent nos sources.
Retournons en Ituri pour parler d'un tout autre phénomène, celui de la popularité des perruques et de leurs conséquences sur la santé. Dans la ville de Boudien, ces perruques, mais aussi d'autres extensions des cheveux, communément appelées mèches, sont partout au marché, dans les salons de coiffure, les boutiques et sur les réseaux sociaux. Pour certaines femmes, c'est une question de style. Pour d'autres, c'est pour protéger leur chevelure. Mais quelles peuvent être les conséquences à long terme du port régulier de ces cheveux artificiels et les de réponse dans ce reportage de Jean-Claude Dokidile.
Bon, c'est rare de me voir porter des mèches et perruques, c'est la toute première fois que je le fais.
Nous avons rencontré quelques jeunes filles et femmes pour connaître leur expérience. Ruth Nemassi portait régulièrement des mèches.
Quand nous étions à l'université, on manquait du temps de tresser les cheveux traditionnels. C'est pour cela que j'avais pris la décision de commencer à mettre les plantes ou les mèches sur ma tête.
Mumtaz Fahim, âgée de 17 ans, pour elle, c'est l'abus qui est mauvais.
C'est joli d'en mettre, mais il ne faut pas le faire régulièrement. Parce que déjà, naturellement, on est belle.
Les espérances santé alertent les clientes sur les risques de se faire contaminer à partir des produits chimiques ou surtout des matériels utilisés. Jean-Luc Mala, un autre coiffeur, sait prendre ses précautions.
Il y a les aiguilles, gilettes, on les stérilise d'abord pour utiliser ça.
Mais attention, tous les produits importés ne sont pas bons à mettre sur la tête, avise le docteur Tripathi Sindani, dermatologue.
Et il peut y avoir une allergie, peut-être que la matière avec laquelle on a utilisé pour fabriquer la mèche, ça ne concorde pas avec votre état de peau.
Il faut savoir consulter un spécialiste dès le moindre signe d'irritation. Bounia, Jean-Claude Louki, Guilé, Radio Capi.
Actualité internationale. Le géant informatique américain Microsoft a annoncé hier mardi un investissement de 30 milliards de dollars au Royaume-Uni, dont la moitié dans les clouds, l'informatique à distance et l'intelligence artificielle au moment où Donald Trump y entame une visite d'État. Nous investirons plus de 30 milliards de dollars sur 4 ans pour renforcer les bases que nous avons déjà posées ici. Notre plus gros investissement dans le pays à ce jour, a déclaré sur X Satya Nadella, le directeur général de l'entreprise qui emploie 6000 personnes au Royaume-Uni.
L'invité.
Notre invité est Gracias Kibanja, militante des droits des femmes et activiste environnementale. Dans un entretien avec Ronelie Ntibonera, elle revient sur le travail accompli par son organisation Women in Action for Human Dignity dans la province du Nord-Kivu. Malgré un contexte sécuritaire difficile, elle s'est réjouie d'avoir mobilisé une centaine de femmes pour faire face à la crise climatique qui menace la stabilité régionale tout en assurant leur autonomisation à travers diverses activités. Suivez leur entretien.
Madame Gracias Kibanja, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes engagée aux côtés de plusieurs femmes pour une gestion de la crise climatique au Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. 10 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir de vos actions en termes de gestion des crises climatiques?
10 ans après, ce qu'on peut retenir de nos actions, premièrement, est que nous avons travaillé à l'éveil des consciences de femmes pour que les femmes puissent savoir qu'elles ont également un rôle à jouer dans la gestion des crises climatiques, mais aussi nous avons travaillé également auprès des autres réseaux pour démontrer que la femme aussi doit avoir une place lorsqu'il s'agit de parler des gestions de la forêt, lorsqu'il s'agit de parler des gestions des eaux et tout, parce que nous faisons partie de gens qui utilisent le bois, qui utilisent de l'eau et tout, et donc nous devons nécessairement faire partie de ces espaces-là de prise de décision pour donner notre avis, pour donner également nos plans pour que les gens puissent vivre dans un environnement plus ou moins sain. Mais aussi, 10 ans après, nous travaillons pour que aujourd'hui on peut parler de crise climatique dans d'autres pays et en RDC, on parle de troubles et que nous ne puissions pas arriver à ces niveaux-là de crise climatique, que nous puissions travailler pour que la population, ou demain ou après-demain, que nous ne puissions pas vivre la crise climatique, mais que nous puissions savoir gérer les petits troubles climatiques qu'il y a dans nos territoires.
Nous savons aujourd'hui que dans la plupart des territoires où vos projets sont exécutés, ce sont des territoires qui ont connu la guerre. Il y a quel niveau, tout ce qu'il y a comme tension au niveau du Nord qui vous affecte vos activités sur les terrains?
Je peux dire d'abord premièrement que tout ce qu'il y a comme tension au niveau du Nord qui vous affecte grandement nos activités sur terrain, parce que premièrement, ceux qui sont sur terrain ne peuvent pas s'exprimer librement. Et nous qui travaillons dans la défense de droits humains, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ouvertement, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire comme on le faisait avant. Et donc, cela expose non seulement le défenseur de droits humains, mais aussi ça expose aussi les gens qui travaillent pour la promotion de droits dans ces zones-là. Et donc, c'est pour nous une question encore de rappeler à ceux qui nous écoutent, mais aussi à nos autorités, de pouvoir mettre tous les efforts en place pour que la paix revienne et que les gens puissent travailler comme il se doit et vivre aisément dans leur communauté.
Dans 10 ans, c'est autour de 350 femmes qui ont été mobilisées pour des questions des crises climatiques. Je vais parler par exemple dans le territoire de Nyiragongo. Comment se traduisent vos interventions sur le terrain quand on sait que déjà le territoire de Nyiragongo, c'est une zone conflictuelle entre ceux-là, les agriculteurs ou les éleveurs, et les autorités du parc national de Virunga?
Là, ce que nous faisons comme activité, c'est d'abord renforcer les capacités des femmes pour qu'elles aient plus de capacités en leadership, qu'elles aient aussi des capacités sur la médiation, la résolution de conflits. Nous essayons également de faire des plaidoyers pour intégrer les femmes dans les espaces des décisions qui existent tout autour de tous ces conflits liés à la terre, liés au climat et liés tout autour du parc des Virunga. Nous essayons également de faire des plaidoyers auprès des autorités locales pour voir comment ils peuvent prendre en considération les revendications des femmes.
En termes d'autonomisation, parce que le projet, il y a la crise est là, il y a des victimes, bien sûr, autour de cette crise. Mais comment vous faites pour que cette crise, qui est annoncé ne soit pas impactant sur la vie des femmes et des jeunes filles dans la province du Nord Kivu?
Premièrement, l'impact sur le plan psychologique est énorme. Nous, ce que nous faisons l'accompagnement psychosocial des femmes, que ce soit les femmes victimes ou que ce soit les femmes non victimes, parce que aujourd'hui, la plupart de la population est dans un traumatisme grandissant. Et donc, nous faisons des thérapies en groupe, nous faisons aussi l'accompagnement individuel de ces femmes-là. Au-delà de ça, nous essayons aussi de leur apprendre la fabrication des charbons écologiques et des foyers améliorés, la transformation des déchets plastiques, mais aussi nous donnons également de petits microcrédits à ces femmes pour les aider à être plus ou moins autonomes. Encore que ces temps-ci, il n'y a pas des banques qui sont ouvertes dans ces zones-là. Et donc, les femmes ont besoin de s'entraider entre elles, d'avoir également des notions sur l'éducation financière pour qu'elles puissent savoir vivre avec les peu qu'elles peuvent avoir sur leurs mains.
Madame Gracias Kibanja, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Je vous en prie, merci beaucoup aussi.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Polly Monzalia et mis en onde par Billy Landry Betou. Merci de nous avoir suivis et retrouvés cette édition sur notre site internet radiocapi.net.